C'est à l'occasion d'un déplacement à Dreux pour une conférence sur la pensée sociale de l'Église que je reçois le Père Jean-Marie Onfray à Radio Grand Ciel. Merci d'être venu à Radio Grand Ciel.
Merci de m'accueillir.
Et tout de suite, je vais vous demander de vous présenter.
Je suis prêtre depuis 38 ans, je suis moraliste dans le travail théologique. C'est vrai que dès le départ, il m'a semblé important de voir les questions morales. Pourquoi les questions morales ? Parce que la foi passe non seulement par des convictions, mais par une action. Et l'action, la mise en œuvre, l'engagement, dit la vérité d'une conviction. On peut avoir de belles convictions, et Dieu sait si parfois il y a des chrétiens qui ont de belles convictions. L'essentiel, c'est tout de même les actes que nous posons.
Il me semble que c'est évangélique.
C'est évangélique, hein, l'autre l'a dit avant moi, ou d'autres l'ont dit avant moi. Mais donc, c'est ce qui m'a amené à travailler sur ces questions de morale. Alors, j'ai pendant longtemps participé à des débats autour des questions de sexualité, et j'avoue que c'est pas obligatoirement ce qu'il y a de plus passionnant comme question morale, parce que si de fait la vie sexuelle pose des questions à la construction de l'homme, la vie de l'homme dans la société en pose beaucoup plus. Et c'est donc tout doucement, je me suis spécialisé dans les questions d'éthique sociale, et puis pendant 8 ans j'ai été dans la pastorale de la santé, y compris au niveau national, et derrière les questions de santé il y a de grandes questions morales, parce que c'est le devenir de l'homme, et c'est le devenir de l'homme en société, et ça c'est passionnant, et l'Église a quelque chose à dire.
En fait, il y a la morale qui concerne les débuts de la vie, la fin de la vie, la sexualité, vous l'évoquiez. Puis il y a aussi celle de l'homme en société.
Tout à fait. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'a frappé, vous voyez, j'ai fait un commentaire, une conférence, parfois avec 500 personnes, pour chacune des 14 encycliques de Jean-Paul II. Et une des choses qui me frappe, c'est que les journaux, les mentalités n'ont gardé que tout ce qui touchait la sexualité. C'est-à-dire qu'on est toujours, les journalistes, oui. Hein, entre autres, et le commun des mortels, comme on dit, est toujours marqué par une parole d'Église sur la sexualité. Alors, il y en a, et parfois je pense que l'Église aurait mieux fait d'être plus silencieuse sur ces questions-là, parce que ça touche le fort intime, et comme je dis toujours, je ne suis pas là pour surveiller ce que les gens vivent, et heureusement. Par contre, je suis là pour voir les effets d'une vie sociale. Et c'est vrai que Jean-Paul II a écrit énormément sur les questions sociales, sur les questions de la pensée sociale, de ce qu'on appelle parfois la doctrine sociale. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce qui a marqué le plus les mentalités. Et ce n'est pas non plus ce qu'on a dit de plus, et au moment de sa mort, et quand il a été reconnu comme saint. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit d'abord cette dimension-là.
Quand on veut faire beaucoup d'entrées, on n'a qu'à parler du mariage. Ça remplit la salle.
Tout à fait.
Si on parle de la pensée sociale de l'Église, je ne suis pas sûr que ça remplisse la salle.
Tout à fait. Si je dis que Jean-Paul II a plus parlé de questions sociales, il faudrait aussi se souvenir que Jésus-Christ n'a pas parlé de sexualité. Que quand on ouvre les évangiles, à aucun moment il n'est question de sexe dans les évangiles, et qu'il n'y a qu'un seul endroit où la question est posée à Jésus, d'ailleurs de manière pernicieuse, pour savoir si on peut renvoyer sa femme pour n'importe quel motif. Et là-dessus, Jésus va dire une parole qui structure d'ailleurs la pensée de l'Église, c'est que l'engagement de l'homme à l'égard de la femme ou de la femme à l'égard de l'homme a une dimension définitive, une dimension d'absolu, et que donc l'homme n'a pas le droit de rejeter celle qu'il a choisie. C'est la seule référence à ce qui pourrait être de l'ordre d'une réflexion sexuelle de l'intime dans les évangiles. Et Dieu sait si on en parle. Par contre, si vous lisez les évangiles de près, en particulier par exemple l'évangile de Luc, vous verrez qu'à toutes les pages, il y a régulièrement ce que je pourrais résumer en « On ne peut pas servir Dieu et l'argent ». C'est-à-dire que tout l'évangile de Luc, mais l'ensemble des 4 évangiles, insiste sur cette manière qu'a eu le Christ, peut-être que c'est une des raisons aussi pour lesquelles il est mort, cette manière qu'a eu le Christ, bien sûr, de relativiser la loi dans sa dimension, j'allais dire, de texte écrit. Et vous savez combien les pharisiens, les scribes, même les hérodiens lui en voulaient, essayer de le coincer, mais combien aussi il a essayé de dénoncer l'usage de l'argent et le pouvoir qui était attaché à l'argent. Et les 3 tentations que le Christ vit, par exemple chez Matthieu, c'est la tentation du pouvoir, la tentation du savoir, la tentation de l'avoir. Et donc c'est bien cette dynamique sociale de l'existence qui est en jeu, y compris dans les guérisons de Jésus. Puisqu'on sait bien, par exemple, que les guérisons de lépreux, c'est bien sûr un problème de maladie individuelle, mais c'est d'abord un problème de réalité sociale.
Puis d'intégration dans la société.
Et donc d'intégration dans la société. Et guérir un lépreux, c'est bien sûr lui faire du bien, c'est tant mieux, mais c'est aussi le réinsérer dans la société. Vous savez que si, dans les questions de santé, si je me passionne sur les questions de dépendance, c'est parce que de plus en plus, les personnes âgées sont de trop dans notre société. Elle n'est pas organisée autour des personnes âgées, puisqu'elle est organisée autour des consommateurs, et qu'ils sont de moins en moins consommateurs, et elle est organisée autour d'un absolu de l'autonomie, et qu'ils sont de moins en moins autonomes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on parle de dépendance, on a l'impression qu'on parle d'une catastrophe, alors que fondamentalement, la réalité sociale, c'est l'interdépendance.
Même quand on est jeune et dynamique, en fait, on ne vit que dans la relation à l'autre. Il y a quand même constamment cette dimension de relation.
C'est évident. Et elle est au début de la parole de Dieu, la première question que Dieu pose à l'homme, parce que c'est Dieu qui pose les questions.
Qu'as-tu fait de ton frère ?
Alors c'est la deuxième. La première, c'est Adam, où es-tu ? C'est-à-dire la première question m'appelle à une réflexion existentielle, parce que c'est pas où es-tu comme on dit avec le téléphone portable et la réponse je suis à telle rue ou devant la gare, c'est où es-tu, où en es-tu ? Et très rapidement, ça va être la question qu'as-tu fait de ton frère ? Et toute la Bible est cette longue interrogation de Dieu, donc sur le prochain, sur les frères, qui conduit à dire, et c'est Saint Jean qui le dira, celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son frère qu'il voit est un menteur. Donc c'est vrai que j'ai 67 ans, mon catéchisme n'avait aucune phrase de la Bible. C'était des questions-réponses, il n'y avait aucune phrase de la Bible. Donc quand on ouvre la Bible, on découvre qu'il y a dans la parole de Dieu une énergie qu'on n'avait absolument pas dans nos questions-réponses de notre catéchisme, où il y avait les vérités que nous devions croire, les sacrements que nous devions pratiquer et les commandements auxquels nous devions obéir. Et c'est vrai que la dynamique prophétique de la parole de Dieu, lorsqu'on y retourne, et nos frères protestants l'ont fait avant nous, parce que nous, pendant un temps, chez les catholiques, on disait, il faut
la
pas
Bible,
ouvrir.
Oui, faut pas y aller.
Voilà. Et donc, à partir du moment où on ouvre la parole de Dieu, on entre dans une dynamique qui ne peut que nous bousculer, puisqu'elle est fondamentalement, de part en part, prophétique.
À quoi vous attribuez le fait qu'on ait, entre guillemets, oublié? Parce que finalement, quand même, au cours de l'histoire, il y a eu constamment des personnes qui ont amené la paix de Dieu, la trêve de Dieu, les saints Vincent de Paul et autres.
C'est évident, mais tout simplement parce que l'Église, elle est, de même que le Christ est vraiment Dieu et vraiment homme, comme
oui,
le dit le Concile
homme,
de Chalcédoine, l'Église est vraiment divine, et je le crois, et je le vis au quotidien,
et
en même
temps,
elle
aussi.
Est vraiment humaine, et donc elle est à la fois traversée par l'Esprit Saint qui bouscule sans cesse depuis 2000 ans. On n'a pas attendu 2014 pour être bousculé. Donc il y a cet Esprit Saint qui bouscule et en même temps il y a continuellement cette dimension très humaine. J'aime souvent citer le passage d'Isaïe au chapitre 55 où Dieu dit « c'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas les vôtres ». C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours, pour le croyant chrétien, il y aura toujours cette sorte de tension entre les idées que je me fais et les idées que Dieu m'invite à vivre, enfin le souffle qu'il me donne. Et donc, cette tension-là, de fait, on l'a vu tout au long de l'Église, avec des gens qui s'en mettaient plein les poches, avec des gens qui jouaient à fond le pouvoir, et c'est vrai qu'il y a eu des périodes pas très très belles dans l'histoire de l'Église, et en même temps, avec des gens qui allaient jusqu'au fond, j'allais dire, du don d'eux-mêmes, au nom de la parole de Dieu, et qui allaient dans le service du frère en allant très très loin. Par exemple, on n'a pas attendu qu'il y ait un ministère de la santé pour avoir ce souci des lépreux, ce souci des malades, ce souci des pères âgés.
Là, c'est même, c'est l'Église, même c'est fondamentalement, qui l'a installé, si j'ose dire.
Dans toutes les villes, il y avait des hôtels-lieux. Donc, si on veut parler de la dimension sociale, elle est présente dans l'Écriture, il n'y a que cela, j'oserais dire, hein. Et puis, c'est vrai que, dans l'histoire de l'Église, il faut attendre le 19e siècle pour qu'on se secoue un peu les puces du côté du magistère. C'est-à-dire que, jusque-là, il n'y avait jamais eu d'encyclique qui abordait cette question-là, parce qu'on avait un peu l'impression que les questions d'Église, c'était les questions de Dieu. Vous savez, comme certains chrétiens qui disent aux prêtres, arrêtez de nous parler de politique, parlez-nous de Dieu.
Souvent, c'est vrai, en voilà. Effet.
Je me souviens, c'était en 68, Mgr Riobé avait parlé de la bombe atomique, et un amiral, l'amiral de Joybert, qui était le chef d'état-major des armées, avait dit « Messieurs de la prêtrise, occupez-vous de vos oignons ». C'est-à-dire que les oignons de l'Église, c'est la sacristie. Les oignons de l'Église, c'est la liturgie.
Ça l'avait renvoyé aux sacristies.
Tout le problème, c'est de dire « Est-ce que la vie de l'Église se réduit à la liturgie, à la sacristie ? Ou est-ce que la vie de l'Église, c'est la vie des hommes ? Est-ce que la passion de l'Église, c'est bien la passion de Dieu pour la vie des hommes ?» Et donc, la pensée sociale, c'est d'entrer dans cette passion de Dieu pour la vie des hommes. Alors, cette passion, il y a un moment clé dans l'histoire de la tradition, donc de la pensée de l'Église, ou de ce qu'on appelle la doctrine sociale, c'est 1891. Alors c'est intéressant parce que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on est dans une France très rurale, que le catholicisme a complètement supervisé avec un maillage étroit des paroisses, et avec des prêtres qui sont dans toutes les paroisses un peu le leader local et qui faisaient la pluie et le beau temps. La Révolution avait bousculé ça, mais c'est vrai que la Restauration a remis en place
ces
paroisses.
Oui.
Et avec Napoléon III, on avait même des curés qui étaient payés par l'État pour être des petits préfets locaux. et les évêques étaient là comme témoins du pouvoir central. Donc c'est vrai que dans ce passage entre le XVIIIe siècle d'un monde rural et le XIXe, où il y a eu l'explosion de la révolution industrielle.
Oui, l'usine qui est quand même pas très brillante, et véritablement on a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, dire quelque chose.
Tout à fait. Alors le problème, si vous voulez, c'est que l'industrialisation en France, en Angleterre ça a été un petit peu plus tôt, dès le XVIIIe, c'est le début du XIXe, et je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'entre le début du XIXe et 1891, il y a tout de même presque un siècle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conditions ouvrières extrêmement dures. Il suffit de lire Zola, il suffit de relire Les Mystères de Paris. Un rapport qui est connu, qu'on appelle le rapport Villermé. Voilà, oui. Le rapport Villermé dit, au milieu du siècle, il y a des gamins de moins de 8 ans qui poussent les wagonnets dans les usines. Et alors, on arrivera à une loi de 1850, qui interdira le travail des enfants de moins de 8 ans. C'est-à-dire qu'à 9 ans, ils peuvent passer la journée dans les mines à pousser les wagonnets. Eh bien, 1848, en l'occurrence, il faudra attendre 1891. Et si je prends 1848, parce que c'est que 1848, c'est le capital de Karl Marx. C'est-à-dire qu'il y aura une parole forte contre cette réalité-là. Alors, très forte, bien sûr. Et il faudra attendre 1891 pour que...
Que l'Église se rende compte qu'elle a perdu complètement la classe ouvrière.
Voilà pourquoi Léon XIII réagit. C'est parce que, justement, la classe ouvrière ne fréquente plus l'Église. Oui. La classe ouvrière, devant les conditions très dures de vie, et puis la classe ouvrière, si vous voulez, l'Église avait fait un maillage territorial dans le rural.
Mais pas dans le monde ouvrier.
Pas du tout dans le monde ouvrier, dans ce monde qui était déplacé, qui était comme nos migrants actuels. C'est-à-dire, ils vivaient, ils s'entassaient autour des usines, etc. Et donc, on a loupé cette réalité-là, qui a été tout à fait pris en charge par, on ne peut pas dire les communistes, à l'époque c'était les socialistes, puisque le communisme ne viendra qu'au début du XXe. Donc c'est vrai que devant cette montée socialiste et anarchiste, qui a, noyauté la réalité ouvrière, et ça se comprend, parce qu'il y avait des conditions de vie odieuses qu'on ne peut même pas imaginer. Donc c'est merveilleux qu'en 1891, Léon XIII ait parlé, c'était tout de même un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, et c'est intéressant de se rendre compte qu'il parle parce qu'on a perdu la classe ouvrière, et il va parler pour dire, attention, il ne faut pas que ça aille plus loin, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on essaie de retrouver un lien avec cette réalité. Et le rerum novarum, les choses nouvelles, c'est la question ouvrière. Et donc, toute la tradition de la doctrine sociale ou de la pensée sociale, jusque dans les années 1960, va être cette question ouvrière. Et donc, ça va être une réflexion. Alors,
avec les anniversaires, les encycliques anniversaires.
Voilà. C'est-à-dire, bon, vous avez 1891, 40 ans plus tard, vous avez Quadragesimo Anno en 1931, vous aurez des radiomessages de Pie XII en 1951, parce qu'en 41, c'était pas évident. Et puis, on va avoir en 61 un texte fort, Mater et Magistra, du pape Jean XXIII. Et puis, on aura en 1971 un texte fort de Paul VI. Donc, on va avoir tout doucement des textes qui vont revenir sur cette question ouvrière pour dire, il n'est pas pensable que l'être humain soit écrasé de cette manière-là. Et c'est intéressant de voir que dans le texte de Léon XIII, ce que veut le pape, c'est que les ouvriers soient reconnus, et donc il va inviter les patrons à être gentils, à faire des efforts, parce que, si vous voulez, l'Église est encore une forme de paternalisme qui va conduire à un paternalisme social où il y aura de très gros progrès. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, il s'est passé des choses merveilleuses, mais tous ces premiers textes ne remettaient pas en question un système, c'était le désir de l'adapter. Et je dis cela parce qu'il faut savoir qu'en 1891, quand le texte est paru, il y a même eu des évêques qui ont demandé qu'on ne lise pas le texte. Un évêque du sud de la France, je ne donnerai pas plus de précisions, qui était royaliste et qui donc avait certaines idées sur la société, a dit, par un mandement épiscopal, « Notre très saint père a produit un merveilleux texte, mais je vous demande de ne pas le lire. » Et quand on lit Quadragesimo Anno 40 ans plus tard, Pie XI commence par dire « Le texte de notre vénéré prédécesseur a été très mal accueilli. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut partir du principe que dès 1891, dans cette encyclique qui vraiment ne bouscule pas les choses, hein, Jean-Paul II est allé beaucoup plus loin dans la contestation. Hein. Donc dès 1891, c'était pas évident que le monde catholique, de même que c'était pas évident qu'il accepte la République et qu'il quitte la monarchie, c'était pas évident que le monde catholique accepte d'entendre une parole qui le bousculait aussi fondamentalement. Eh bien, ce sera pas plus évident en 2014.
C'est ce que nous verrons dans une autre émission. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous.